devrais arrêter d'y penser. Arrêter de me prendre la tête, de façon t'es plus dans ma vie. Et puis j'ai plus trop de temps à perdre. Je me dis ça tous les jours, mais c'est plus fort que moi. Je vais toucher toutes sortes de bois en espérant que tu sortes de moi. Oui, je sais, j'abuse, elle a changé de puce. Mais j'ai gardé son hume et j'ai même laissé ma puce. Putain, je me fais trop tiep, mais faut pas que je me mente. Tu prends trop de place dedans, c'est pour ça que je prends la grosse tête. J'ai même mis quelques posters de nous deux sur les murs de ma chambre. Je suis un bâtard et plutôt cool, t'as eu de la chance. J'ai l'impression d'être une MST. C'est fou ce que tu m'évites, du coup je me force à te détester. C'est tout ce que tu mérites. L'amour rend pas aveugle, la merde couvre mes yeux, je crois. En vrai, je m'en bats les couilles, je suis sûr de trouver mieux que toi.
Qui a déjà eu des MST ici? À part toi?
Ah, c'est pas le sujet?
Non. Pardon, on va sur le sujet. Alors, de quoi on parle aujourd'hui, les gars? Ça va ou quoi?
Ça va. Je m'attendais pas du tout à cette ouverture de podcast.
Ah merde. Tu veux qu'on la refasse?
Ça va très bien.
C'était pas bien? C'était hors propos, hors sujet, non?
C'était parfait, Léo.
Ah, merci, ça me va. Alors, je suis content.
On parle de quoi aujourd'hui, les gars?
On parle d'un sujet qui nous vient de la dernière newsletter de Manuel. Est-ce que vous êtes abonné à la newsletter de Manuel? Comment on s'abonne à la newsletter de Manuel?
Qu'il est con. Il y a le lien sur mon compte Twitter ou sur mon site, manueldiaz.fr.
Magnifique. Tu parlais quoi dans ta newsletter?
Je parlais du manque.
Ok.
Et.
D'argent?
Non, du manque
c'est
en
fou,
général.
Lui, dès qu'il peut être monégasque, ils font ça.
La caillasse. Non, je parlais du manque parce qu'il y a un truc qui me frappe, c'est que les gens comprennent souvent trop tard que quelque chose peut leur manquer, mais il est déjà trop tard quand ils le comprennent, en fait.
Ouais.
Et je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre que les gens n'aient pas cette capacité à se projeter pour imaginer qu'il faut profiter des choses tant qu'elles sont encore là et plutôt convoiter ce qu'on a plutôt que ce qu'on pourrait avoir.
Mais prévoir ce qui pourra te manquer, c'est aussi éviter que ça parte.
C'est aussi une façon de le garder autour de toi, effectivement, le préserver, en fait.
C'est pas uniquement sentimental, ce que tu décris.
Pas du tout, ça peut l'être, mais pas uniquement. C'est aussi être capable de reconnaître que t'as, je sais pas moi, dans un contexte professionnel, un mec dans tes équipes qui est peut-être pas le meilleur, etc., mais par contre qui a la bonne attitude, la bonne répartie, le bon engagement, etc., et plutôt de convoiter un mec qui est un tout petit peu meilleur, n'oublie pas de constater aussi que ce mec a aussi la compatibilité complète avec la culture de la boîte, etc. Ouais. En fait, c'est ce côté toujours plus, encore plus, toujours mieux. Tu vois, l'herbe est toujours plus verte ailleurs jusqu'à ce que tu t'aperçoives qu'elle est en synthétique.
Mmh. C'est bien ça. Toi, Romain, à part de style, tu manques de quoi?
Merci.
Tellement gratuit.
De ouf.
Les gens peuvent pas te voir là, donc je dis ce que je veux, ils vont me croire. Hein.
C'est vrai.
Bah, en même temps, c'est bonjour.
Depuis le Marcel, c'était peut-être pas obligatoire.
Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette notion-là, au manque? Est-ce que des choses vous ont manqué ou des gens vous ont manqué?
Oui, effectivement, moins maintenant, mais je m'en suis toujours rendu compte un peu trop tard. Parce qu'on ne prend pas conscience et je pense qu'on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qui est important pour nous. C'est-à-dire que souvent, on considère que ce qu'on a, c'est complètement acquis et on l'a mérité, donc c'est normal que ce soit là. Donc le jour où ça part, tu dis « Attends, mais je mérite ça pourtant. » Alors qu'en fait, c'est souvent en considérant que ce que tu as est acquis et que tu le mérites,
c'est souvent
comme ça que tu agis comme un connard et que tu perds les choses.
Moi, pour une fois, c'est moins dans le business, c'est plus dans le perso.
Ouais.
Dans le business, en fait, au fur et à mesure, j'ai l'impression que tu as acquis une certaine valeur et expérience qui fait que tu peux redémarrer sans redémarrer de zéro. Donc, si tu perds quelque chose, tu sauras peut-être être un peu plus rapidement à un bon niveau. Alors que dans le personnel, tu ne peux pas gérer les gens qui partent autour de toi. Et moi, pour exemple, je n'ai pas peur de le dire, mais j'ai encore jamais vécu la mort d'un proche.
Ouais.
Et je pense que c'est un sujet...
Ça va pas tarder.
C'est vrai, peut-être, mais c'est un sujet que je ne saurais pas maîtriser pour le coup.
Ouais,
parce que c'est... D'un côté, je me dis, certes, aujourd'hui, je suis égoïste parce que je pense plus à moi qu'à voir des proches, à essayer de passer du temps avec eux, parce que je pars du principe que si je vais les voir, je ne fais pas vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Mmh. Ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est m'assouvir dans ce que j'aime entreprendre, etc. Ouais. Et donc, tu vois, j'aurais l'impression de les tromper.
Il y a aussi ce côté au-delà des choses qui sont acquises. En fait, ils sont là. Donc, tu te dis, si j'avais envie d'aller les voir, je pourrais aller les voir. Et si du jour au lendemain, ils ne sont plus là, tu vas te dire, mais en fait, j'étais un connard. Il fallait que j'aille les voir le temps ils étaient là.
C'est aussi parce que notre cerveau prend des raccourcis.
Ouais.
C'est-à-dire que pour éviter la souffrance, on ne projette pas le fait que les choses comme les gens ont une fin.
Ouais.
Et on préfère imaginer qu'ils sont éternels.
Moi, c'est un truc que je fais de fou, moi, ça.
Parce que ça nous évite de penser à des choses douloureuses. Mmh. Et le cerveau déteste penser à la difficulté, aux efforts et aux choses douloureuses. Donc, il prend des raccourcis. Mmh. Il s'imagine des scénarios qui lui facilitent la vie. Mmh. Et en ce sens, on imagine que des situations, des moments, des personnes sont éternelles et qu'on peut en disposer comme on veut et quand on veut.
Je ne sais pas pourquoi, mais moi, depuis tout petit, je le fais beaucoup, ça, d'imaginer que des proches meurent et de savoir comment je réagirais, comment ma vie serait sans ces personnes-là.
À ce stade, Léo, c'est des souhaits. Hein.
C'est un peu macabre. Bah non, parce qu'après, genre, je vais juste trafiquer un peu les pneus ou les trucs comme ça, mais rien de... Non, mais c'est vrai que c'est un truc que je fais depuis tout petit, m'imaginer, me dire, en fait, si cette personne disparaît demain, comment je réagis, à quoi ressemble ma vie? Et souvent, c'est assez terrible et j'ai envie d'appeler la personne en question. C'est pour ça que d'ailleurs que je vous appelle jamais. Mais
moi, je suis incapable d'imaginer.
Ah
je
ouais.
sais pas. En mais fait, c'est... je sais pas si par forme de protection, justement, j'essaierai de me couper de ce manque et de m'occuper complètement à autre chose, de changer radicalement ma vie du tout au tout pour ne surtout pas y penser. Ou au contraire, si je serais capable, parce que je sais pas. D'un côté, ouais, il y aura des trucs où je suis très humain, et d'un autre côté, je suis tellement pragmatique que je me dirais, bon, c'est un fait, quoi. Genre, mais c'est horrible, hein. Enfin, je suis désolé hein, d'avance de ce podcast-là, mais ce sujet va forcément vous permettre de nous connaître peut-être un petit peu mieux sur certains points.
Et... C'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que tu dis, dans ce que je dis et dans ce que dit Manuel. Il y a un truc qui est marrant, c'est que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus se projeter vers quelque chose, un destin macabre. C'est un truc qu'on fait beaucoup plus avec les animaux. De se dire, mon chat, faut que j'en profite parce qu'il n'est pas éternel. Parce que c'est beaucoup plus proche et c'est beaucoup plus mesuré. On se dit, en fait, en général, c'est 15 ans, ce ne sera pas plus. Donc c'est un truc sur lequel on se projette beaucoup plus, de se dire, faut que j'en profite parce que c'est une durée de vie assez limitée, quoi.
D'ailleurs, je me casse parce que je vais rejoindre le mien. Qui m'attend. Non, mais aussi, beaucoup de gens considèrent que le fait de penser ne serait-ce qu'à cette question, au fait que quelqu'un puisse te manquer ou quelque chose puisse te manquer, est une faiblesse.
Mmh. Ouais.
Et on a beaucoup d'orgueil encodé en nous. On nous apprend que la faiblesse c'est mal, que il faut l'éviter, il faut être fort, etc., etc. Et on nous apprend pas à explorer cela. Mmh. Et je pense que c'est intéressant d'être capable de mobiliser un schéma mental dans lequel, comme tu le disais à l'instant sur ce que tu imaginer quand tu étais petit, tu te projettes dans une situation où ces personnes ne sont plus là, où tu ne profites plus de ce lieu, où tu ne profites plus de l'environnement qui est autour de toi. Et du coup, ça intensifie ton présent. Mmh. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de ça.
Et ça peut totalement être fait dans une boîte. De se dire, cette personne-là qui n'est pas forcément la meilleure, comme tu disais, si demain, elle ne fait plus tout ce qu'elle fait, à qui j'attribue toutes les tâches dont elle s'occupe toute la journée? Et qu'est-ce qui se passe dans la boîte? Ça peut totalement être un bon exercice.
Et c'est peut-être le point le plus compliqué pour faire grandir une activité. C'est de réussir à la fois à t'entourer de gens meilleurs et à ne pas perdre les gens qui sont très bons.
Ouais.
C'est vrai que passer du tout au tout, et puis on est quand même aujourd'hui dans une société qui te pousse à avoir les choses très rapidement, de manière ultra simplifiée, T'es pas obligé de les embaucher, tu peux travailler avec des freelances, tu peux faire des tests, tu peux faire... Enfin, tu vois, il y a tellement de choses qui font que t'es pas obligé de te projeter en te disant « Putain, si je fais ça, c'est irréversible », que finalement, ça te pousse à faire plein de trucs et parfois à pas réfléchir réellement sur la décision humaine qu'il y a derrière.
Ouais. Et Manuel, toi, pour revenir à ta newsletter, tu considères que ce manque qu'on fuit un peu tous, qu'on n'arrive même pas à projeter, c'est extrêmement important finalement?
Je pense que c'est primordial, en fait. Je pense que c'est primordial de le modéliser, de le comprendre, parce que c'est la seule façon de profiter de ce que la vie met sur ton chemin. Si on considère que il y a une forme de, qu'on croit aux rencontres, ou tu peux l'appeler comme tu veux, hein, les rencontres, le destin, etc., etc. Si tu veux prendre le meilleur de ce qui t'arrive, alors tu dois apprendre à profiter de ce que tu as et à un peu moins convoiter ce que tu pourrais avoir. Mais c'est lié au mécanisme psychologique qui sous-tend à tout ça. Le mécanisme psychologique qui sous-tend à tout ça, c'est pour que quelque chose nous manque, il faut qu'on en ait envie. Il faut qu'on le désire.
Ouais.
Quelque chose ou quelqu'un. Et en même temps, on ne peut désirer quelque chose ou quelqu'un que si on l'aime.
Oui.
Ok. Mais à partir du moment où quelque chose, tu disposes de quelque chose ou de quelqu'un, il ne te manque plus. Donc, tu ne l'aimes plus.
Ok.
Et donc, le truc est buggé.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ok.
On a encodé en nous une espèce de portion de logiciel qui est buggée. On convoite ce que l'on n'a pas. Ça attise notre désir. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut obtenir. Ça peut être un poste, un job, une fonction dans une boîte, un produit, etc., etc. T'en as envie, et puis quand tu l'as, l'envie s'évapore. Et au final, on est beaucoup plus attiré par ce que l'on désirait au moment où on ne l'avait pas, plutôt que ce dont on dispose au moment où on l'a. Puisqu'au moment où on l'obtient, le désir s'évapore.
Et quand on ne l'a plus, quand on le perd, le désir revient.
En fait, le désir s'évapore à partir du moment où cette personne ou cet objet est toujours disponible, entre guillemets. Mais à partir du moment où cet objet est irrémédiablement indisponible, ne reviendra plus jamais, là, le manque se réactive.
Là, c'est terrible, ouais.
C'est dingue.
Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'on est fucked up, en fait.
Alors ça, c'est la pensée de Platon.
D'accord, fait. Ok.
Et effectivement...
pas très optimiste.
Il nous explique, bon, on est 4 siècles avant Jésus-Christ, hein, quand même, mais on n'a pas fait mieux depuis. Il nous explique qu'on a ce mécanisme un peu vicié à l'intérieur de nous, et ne serait-ce qu'en prendre conscience, nous permet de nous corriger.
Est-ce que vous... Du coup, les gars, vous avez pour habitude de surconsommer quelque chose que vous venez d'avoir parce que vous l'avez convoité pendant très longtemps, ou au contraire, est-ce que quand vous avez quelque chose que vous avez convoité pendant très longtemps, vous avez cette intelligence, si je puis dire, de se mettre de vraies barrières? On peut parler de couple, on peut parler de produits, tu vois.
Quand tu as attendu énormément l'album d'un artiste et qu'il sort...
Comment vous gérez ça?
Est-ce que tu vas l'écouter en boucle pendant 6 mois jusqu'à t'en dégoûter? Ou alors est-ce que tu vas un petit peu? Moi, ça dépend. Il y a des sons, typiquement Note pour Trop tard, que j'ai écouté que très peu. J'ai dû l'écouter une quinzaine de fois dans ma vie maximum, parce que je considère que c'est un truc exceptionnel et il faut vraiment que je le conserve et que ce soit pour des moments qui le méritent.
Ça, c'est ouf. Toi, Manuel?
Moi, j'essaye juste de profiter des instants qui sont là. Et voilà. J'essaye de ne pas les surconsommer, d'avoir conscience de ce qui se passe, et de pas trop me projeter dans qu'est-ce qui va se passer. Alors, j'ai une grande conscience du côté éphémère des choses et des gens. Ça fait partie de mon équation intellectuelle, j'ai pas de problème avec ça. J'ai vu trop de situations s'évaporer et de gens s'évaporer aussi pour me dire qu'ils sont éternels. J'essaie juste de profiter un maximum de l'instant.
De l'instant présent.
Mais quand tu tombes amoureux de quelque chose ou fan d'un produit que tu viens de recevoir ou amoureux de quelqu'un, est-ce que pour autant, tu chamboules pas un peu ta vie pour profiter très rapidement des instants que tu estimes à ce moment-là magique.
On a tous tendance à le faire, mais l'enjeu, c'est justement de réguler ça.
C'est le plus compliqué.
Je pense que quand tu as un peu ce recul, cette expérience, et que tu es un tout petit peu moins con qu'il y a quelques années, etc., tu gères ton manque, voire même tu organises ton manque.
C'est quelque chose pour moi qui compte beaucoup. J'ai pas mal de passions, j'ai plein de choses qui peuvent m'éclater, j'essaie justement parfois de créer ce manque-là en me disant, tiens, là, aujourd'hui, tu peux le faire, mais tu vas te forcer à faire autre chose, parce que tu sais que dans une semaine, quand tu vas pouvoir faire ça, ça sera encore plus décuplé, et parfois, c'est aussi très bizarre, parce que personnellement, je l'ai mis vraiment en pratique dans ma vie perso. Et je peux, par exemple, être chez moi avec la personne avec qui je vis et lui dire non, ce soir, on n'est pas ensemble.
Ouais.
Et pour autant, on est sous le même toit. Et ça, c'est quelque chose...
C'est-à-dire que vous vous quittez régulièrement ?
Exactement. Mais pour moi, c'est super important.
C'est la recette du bonheur.
C'est super important pour moi. Je ne peux pas rentrer à chaque fois chez moi en me disant tiens, si je veux, je l'ai sous la main. On peut passer une soirée ensemble, on peut discuter. Non, j'ai envie de sentir que quand on... passe un moment ensemble, c'est parce qu'on l'a vraiment décidé. On le subit pas par automatisme.
Ouais.
Ça, pour moi, c'est super important. Mais c'est exactement la même chose, comme on le disait, dans plein d'autres contextes.
Du coup, les gars, je propose qu'on se voit qu'en semaine B, afin qu'on se manque un petit peu tous.
Qu'en semaine quoi ?
En semaine B.
D'accord.
On va faire semaine A, semaine B, parce que moi, je n'arrête plus de vous voir tous les jours, en fait.
Et moi, dans le boulot, réellement, quand je suis sur Monaco, ça me manque de pas être là avec vous et autres. Et quand je suis là avec vous, d'un autre côté, je me dis, et c'est toujours ce truc-là de vouloir à chaque fois chercher ce que t'as pas au moment T. C'est ce qui est insupportable, je trouve.
Je racontais mon anecdote d'Orelsan tout à l'heure, mais moi, je suis très extrémiste quand même habituellement. C'est-à-dire que quand je suis fan d'un truc, d'un coup, je peux me buter à ça pendant 2 mois sans aucun problème. Là, récemment, j'ai découvert une chaîne de ping-pong sur YouTube. Je regarde que ça. Dans mon algorithme me propose que ça parce qu'il sait que je regarde que ça.
Bienvenue sur Take Out et je vous présente Léo.
Voilà, donc, mais ça, je sais que ça vient de mon père, qui lui aussi est très extrême dès qu'il découvre un truc. Une fois, il s'est inscrit à la salle. Voilà, je balance, papa, pardon. Une fois, il s'est inscrit à la salle. Il y est allé une fois. On lui a dit, respecte ce programme. Il a dit, non, je vais tout faire. Il a testé toutes les machines. Le lendemain, il pouvait même plus lever son bras pour fumer une clope. Voilà, mon éducation est basée là-dessus. Il n'est jamais retourné à la salle. Pardon, papa.
D'où ton amour du sport, Léo ?
D'où mon amour du sport, mais très hop. Un jour,
c'est fugace.
Un jour dans l'année, hop, je fais une séance de HIIT, je vomis et après à l'année prochaine.
Ça, c'est quand même quelque chose qui est plutôt généralisé dans ce que je peux observer autour de nous, avec beaucoup d'autres jeunes. On a tellement accès à des activités, à des passions facilement, à divers sujets, que souvent, on prend pas le temps de réellement travailler un sujet. On en teste plein. Enfin, moi, je vois par exemple plein d'enfants autour de moi qui font le piano le mercredi, le tennis le jeudi, le ski le week-end. Et finalement, ils arrivent à 12-13 ans, ils savent rien faire. Ils savent faire plein de trucs, ils ont touché à tout, mais ils sont excellents dans rien.
Ouais, mais tu fais ça jusqu'à ce que tu trouves.
Mais il y en a qui ne trouvent jamais.
Il y en a qui ne trouvent jamais, mais au moins, ils cherchent.
Moi, je vais vous jeter une phrase pour savoir ce qu'elle vous inspire.
Vas-y.
Qu'une personne vous manque est moins grave que de ne manquer à personne.
Oui, c'est vrai.
Attention, Romain, process.
Bah, on est des êtres sociaux, donc oui. C'est plus important de savoir...
La question, c'est pas oui ou non, c'est qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oui.
Ah, bah, c'est court.
Nous sommes des animaux très égocentrique. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a démontré que notre mot préféré, c'est notre prénom.
Surtout les youtubeurs.
Surtout les youtubeurs. Surtout le deuxième qui est dans cette pièce avec moi. Donc, oui, forcément. Forcément. On a besoin de manquer à quelqu'un. C'est même parfois un jeu un peu dangereux parce qu'il y a des gens qui font tout pour manquer à quelqu'un. J'en ai connu plein.
Ah bon ?
Ouais. Ça s'appelle des ex.
Tu veux en parler ?
Non, ça ira. Ça ira, j'ai guéri. Et toi, Romain ?
Mais c'est ce côté très frustrant. C'est justement de... On cherche. Et c'est souvent ce qui crée l'amour. C'est quand tu cherches plus souvent à manquer à l'autre que quand tu lui montres qu'il ou elle te manque.
Suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis.
C'est exactement ça. Et c'est un jeu qui, du coup, fait que certains couples restent ensemble 50 ans. Hein. Mais je trouve que c'est le sport le plus difficile à pratiquer.
Et c'est d'ailleurs une vraie méthode commerciale, d'ailleurs. Le fait que quand tu veux acheter un truc sur Apple, sur l'Apple Store, un produit qui vient de sortir, si tu ne le prends pas dans les 5 minutes qui suivent l'annonce, eh ben, il va falloir attendre 6 mois pour en avoir un nouveau. Ça repose là-dessus. Tu as une certaine pression de dire « Ah putain, il faut que je le commande absolument maintenant, parce que sinon je vais en manquer pendant 6 mois. »
Ouais, ou tu peux pousser le concept encore plus loin et faire les raffles de Nike.
Ouais, par exemple, hein. Chaque fois que je veux une paire et qu'on me dit « Ah, tu n'as pas été tiré au sort. »
Et dans un autre contexte, même avec des clients avec qui tu as très envie de travailler, si tu leur montres qu'ils ne sont pas vraiment essentiels à ton équation et ouais. Que... Alors, il se trouve qu'on a fait ce truc avec plein d'autres gens et puis on a pensé à vous parce qu'on nous a un petit peu parlé de vous, alors qu'au fond, tu bouillonnes, tu rêves
parce
de...
Parce que ça rejoint ce que dit Manuel, t'es touché dans ton ego, t'as besoin qu'on ait envie de toi, de tes services, de... C'est un vrai besoin, il faut qu'on vienne te chercher. Il ne faut pas que ce soit anodin, en fait. C'est comme nous, quand quelqu'un vient nous voir et qui nous dit « Ah, j'adore ta chaîne et tout », c'est exceptionnel qu'on nous dise ça. On a une énergie à ce moment-là. On a envie de discuter avec des gens auxquels on n'a pas envie de discuter.
Puis des fois, on répond « Ouais ».
ça c'est autre chose même.
Est-ce que vous vous rendez compte de ce sentiment ou est-ce que on le subit et on s'en rend compte ensuite? J'ai l'impression que c'est un sentiment très direct. Ça t'arrive, tu réagis ou tu surréagis et ensuite tu réfléchis à ce truc là c'est vachement dur je trouve à préparer.
Moi ce que je n'aime pas dans l'idée ou dans les quelques exemples que vous venez de citer, c'est l'idée que ça soit fake, en fait. L'idée qu'on puisse le fabriquer. Mmh. L'idée de se dire, ah bah tiens, là, je vais faire ça, parce que ça, du coup, comme ça, je vais lui manquer. C'est toute l'histoire des remis, tu vois. C'est, ah tiens, je vais pas répondre tout de suite. Surtout, ne réponds pas vite au SMS.
Ouais, mais ça existe.
Ça existe vraiment, en fait. Ouais.
Et tu restes appuyé sur le message, tu lis, mais tu lui montres pas que tu l'as lu.
Ça s'appelle la méthode Titanic.
Ah.
C'est entre chaque message...
Vas-y, éduque-nous.
Tu regardes Titanic...
pas mal.
C'est la bonne durée.
C'est bonne vanne.
Répondre à un message. Ça existe. Je jure que ça existe vraiment.
C'est pas une vanne, Romain.
Ça existe vraiment. C'est un
tout n'est pas une vanne.
Je pense que si tu cherches méthode Titanic, tu vas trouver ce genre de truc.
Écoute, je ne sais pas. Je ne connais pas cette méthode. Mais
toi, t'aimes pas.
Je n'aime pas ça. Mmh. Je pense que soit le manque existe naturellement, et auquel cas, ça évite les quiproquos. Tout ça n'est pas artificiel. Et moi, ça me rend un peu triste de voir sur TikTok tous ces gamins là qui disent « Ah, lui répond surtout pas vite, mais là, on remis, machin, etc. etc. » Je trouve tout ça un peu triste, en fait. Parce que j'ai l'impression que tout ça est un grand artifice.
Ouais.
Et le jour où tu débranches l'artifice, bah, en fait, ces gens n'avaient rien à faire ensemble et c'était juste une illusion.
Oui, tu as cultivé un manque que tu cultiveras pas dans le quotidien.
Bah dans la durée, il ne pourra pas tenir.
Bon, après, ça n'a rien à voir avec les macarons, mais oui.
Pas mal.
Comment tu fais, du coup, pour savoir si tu manques, justement, à cette personne-là, si elle ne te le dit pas ? Et si tu ne le cultives pas ?
Alors, je pense que le manque ne doit pas se cultiver, c'est ce que je disais à l'instant. Si tu le cultives, alors il est totalement artificiel. Et s'il est artificiel, il ne tiendra pas dans la durée. Et deux, tu le sens. Il faut accepter de revenir à notre état de mammifère, d'animal social, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, ça peut pas... Il n'y a pas une liste en trois points qui dit bah, « ça, c'est les critères qui font que tu manques à quelqu'un ». Il y a certainement des signaux, mais t'as pas forcément besoin de les rendre extrêmement explicites, t'as pas forcément besoin de les rendre presque dérangeants. Mmh. Normalement, tu le ressens.
Moi, j'avoue que cultiver le manque, ça fait partie de ma méthode de drague.
De ouf.
C'est même un pilier hyper important. Parce que si, par exemple, je suis sur Tinder et je parle avec une meuf, eh ben, ces messages sont remplis de gens qui lui répondent du tac au tac dans la minute parce qu'ils ont extrêmement faim.
Ouais, mais là, t'es dans un...
Je ne drague que sur Internet.
Comment ça?
Ben, je ne sors jamais de chez moi déjà, sauf pour venir au bureau. Donc, je ne drague que sur Internet. Je sais ce que t'allais dire. T'allais dire quoi?
T'es dans un usage précis. Tu connais pas encore la personne.
Oui.
Tu ne l'as jamais abordé. Tu ne sais pas comment elle réagit. Donc, tu adoptes un comportement qui peut marcher au global.
Mais ça, c'est intéressant. Du coup, est-ce que c'est pas un phénomène qui est arrivé avec Internet?
Ah ben...
Ce côté de cultiver le manque.
De toute façon... Aujourd'hui, laisser du temps à une personne avant de lui répondre et autres, forcément, c'est pas dans son habitude puisque on a l'habitude d'avoir une information très rapidement. Donc, c'est encore plus choquant qu'à l'époque. À l'époque, tu pouvais attendre une journée entière avant qu'on te réponde. Logique, la personne travaillait toute la journée, elle n'avait pas le téléphone portable, bah, il t'appelait le soir quand il voyait qu'il y avait le téléphone qui avait sonné le matin. Aujourd'hui, c'est impossible d'imaginer ça. Donc,
Bah, en fait, quand tu cultivais le manque à l'époque, ça veut dire que tu mettais combien de temps à renvoyer ta lettre, tu vois, enfin, au bout d'un moment, c'est
long. Ouais, bon, là, on est de l'époque-époque, quand même.
Au bout d'un moment, c'est un peu trop long, donc je pense qu'on le fait plus maintenant, parce qu'effectivement, répondre à un message, c'est rapide.
C'était pas il y a si longtemps que ça, il y a encore des gens qui ont des relations épistolaires. Hein.
C'est-à-dire?
C'est vrai, par lettre, par courrier.
Quoi?
Ouais, ça existe.
Mais c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'ils s'envoient des courriers. T'écris une lettre manuscrite, tu l'envoies... Et puis, il s'installe ce temps de, un, l'expédition, deux, de l'attente de la réponse. Il faut que l'autre la lise.
Mais c'est avec iCloud et Hotmail et tout,
dans,
c'est
dans
bon.
Intouchable, ils font ça.
Ah, mais c'est Hotmail.com, quoi.
Non.
Il n'y a ça, pas de technologie.
Courriel.
C'est du papier, en fait.
Non, mais par contre, vous êtes sérieux, les gars?
Ah oui, ça existe, bien sûr.
Bien sûr. Et c'est très bien, c'est très charmant.
Comment ça, c'est très charmant?
Bah, c'est très charmant. Il y a ce moment où suspendu. Ah bah,
oh là là, arrêtez les gars.
Tu ne sais pas exactement si l'autre va répondre, sous combien de temps il va répondre. Il faut
Quoi, à la fois.
Il y a un côté fait main.
Oh, mais vous êtes sérieux?
Mais c'est très bien.
Bien sûr qu'on est sérieux.
Le côté fait main, le côté. Mais c'est quoi?
Oui. Bah, c'est quand même. Avoue que c'est quand même.
Mais moi, il n'y a que mon comptable qui reçoit des lettres. Et ça me fait chier de lui envoyer des lettres.
C'est exactement pour ça que tu n'as pas de relation épistolaire. C'est parce que tu parles de ton comptable à ce moment-là de la discussion. Avoue qu'il y a quand même... Alors, moi ce n'est pas du tout mon truc. Hein, je ne fais pas ça. Mais admets qu'il y a quand même un côté beaucoup plus romantique à écrire une lettre qu'à écrire un message sur Messenger.
Alors, le truc qui est mignon et que j'ai déjà eu, c'est tu pars en voyage et t'as la petite lettre cachée dans la valise et tout. C'est mignon. Mais parler par courrier? Non, mais vraiment?
Mais oui, bien sûr que ça existe.
Et l'autre, il débarque.
Mais genre là, en ce moment, il y a des gens qui vont à la poste parce qu'ils se disent « Stéphanie,
alors, tu
ta
sais,
dernière
a,
lettre ».
On a inventé un truc assez fou qui s'appelle les boîtes à lettres. Mm. Et t'as pas besoin d'aller à la poste pour poster des lettres.
Mm. Mais il y a vraiment une vraie question. Il y a encore des boîtes aux lettres?
Oui.
Beaucoup?
Plein. Il y a plein de gens qui les utilisent. D'ailleurs, tu en as une, tu ferais bien de l'ouvrir de temps en temps. Il y a sûrement des gens qui t'envoient des choses.
C'est fou. Mais après, tu peux continuer à avoir une relation épistolaire avec ton comptable. Hein. Nous, c'est parce qu'on t'interdit rien.
Ok.
Mais juste, on te dit que ça existe.
D'accord. Mais en plus, il la connaît, cette relation, parce que la première industrie qui fait du manque son business model, c'est le luxe.
Ah bah bien sûr.
On peut développer si vous le souhaitez.
C'est le business model du luxe.
C'est la rareté.
C'est organiser le manque.
C'est incroyable. Mais c'est incroyable.
C'est pas un problème. Il y a très très longtemps, c'était un problème de capacité de production.
Ouais.
Pour fabriquer une malle à la main, il fallait du temps. On avait très peu d'artisans qualifiés et ça prenait beaucoup de temps. Donc entre le moment où tu commandais ta malle, le moment où tu la recevais, il se passait beaucoup de temps. Aujourd'hui, l'industrie du luxe organise cette rareté et ce temps. Le fait que certains produits soient sur commande, qu'on ne t'annonce pas de délai ferme, mais qu'on te dise dans les 2 à 4 mois, l'horlogerie fait partie de cette industrie-là, en fait. Elle organise, bon, en même temps, quand tu es une industrie qui vend du temps, heureusement que tu organises le manque. Parce que tu vends du temps quand même, c'est le business model de la Suisse. Mais pareil chez plein d'autres marques, tous les produits numérotés, c'est une organisation du manque.
Et certaines industries qui sont complètement dans les toutes dernières technologies continuent d'industrialiser cette façon de procéder, même les NFT, les gars. Les NFT aujourd'hui, quand tu peux acquérir un tout nouveau NFT qui vient d'être réalisé par le créateur, ils te font attendre quelques jours avant de réellement découvrir le NFT que tu détiens, même si tu le détiens déjà, etc., pour qu'il y ait encore cette sensation de quand est-ce que je vais réellement voir l'œuvre numérique que j'ai achetée, etc., alors que ça pourrait être quelque chose d'ultra instantané. Donc, effectivement, psychologiquement, je pense que l'être humain en a vraiment besoin et ça permet plein de choses. Ça permet, par exemple, le fait de vouloir conserver quelque chose beaucoup plus longtemps quand tu as passé beaucoup plus de temps à l'attendre que si tu l'avais tout de suite, tu pourrais très facilement vouloir le revendre. Il y aurait moins de valeur, en fait, à tes yeux.
Ça permet surtout deux choses. De mettre de la valeur dans le produit, donc de le vendre plus cher. C'est la différence entre le coût et la valeur. Donc, ça te permet de... Quand t'attends attribuer plus de valeur à ce produit.
Une vidéo avec Léo pendant un an, par exemple, tu l'attends.
Alors, c'est de moins en moins le cas.
Je cultive énormément le manque.
Mais
c'est vrai.
Parce que le manque est important, Manuel.
C'est le cas de l'industrie automobile, par exemple. L'industrie automobile, elle sait exactement combien elle fabrique de voitures.
Sauf en ce moment.
Quand est-ce qu'elles vont être disponibles et où est-ce qu'elles sont et où est leur stock. La réalité, c'est que te faire passer commande d'une voiture et te faire attendre plusieurs mois pour obtenir cette voiture, je parle surtout des voitures neuves, c'est complètement artificiel. Au moment où tu la commandes, on sait exactement si cette voiture est déjà produite ou pas. La question des options, etc., etc., tout ça, c'est du bullshit, surtout avec les usines dont on dispose aujourd'hui, qui sont capables d'assembler une voiture assez vite. Tout ça, c'est juste fait pour que tu attribues plus de valeur à ce produit et que tu acceptes de le payer ce prix-là.
D'ailleurs, toute l'industrie de la nostalgie repose sur le manque.
Bien sûr.
L'industrie des vinyles, etc., c'est uniquement du manque qu'on met à profit. Ça te manque, les vinyles, Romain ?
Ah, énormément.
Les relations épistolaires, ça te manque aussi ?
Il nous dit le mec qui a une platine dans son bureau, quand même.
C'est clair. Le seul au bureau qui a une platine.
C'est de la déco, les gars.
Ouais, c'est de la déco.
Ouais, comme tous les mecs qui achètent des vinyles, finalement.
C'est ça.
Je me suis mis plein de gens à dos. Manuel, comment tu dis que le manque, c'est extrêmement important. Comment tu le matérialises ? Est-ce que tu le cultives ?
Non, moi, je cultive pas le manque, mais j'essaye de pas me laisser surconsommer.
Ok. Et moi, je fais tout l'inverse, comme ça, on s'équilibre.
Non, je pense qu'on dit la même chose. C'est-à-dire que les gens peuvent te solliciter, etc., mais quand j'estime que c'est pas nécessaire, je réponds pas, ou je dis non, ou c'est pas, tu vois, c'est pas le bon moment, etc. Et voilà, j'essaye que le dosage soit juste. Mais je fais une grande différence entre les gens qui ont compris ça et ceux qui ne l'ont pas compris. Et ça se voit assez vite dans les relations entre les gens. Tu as des gens qui vont t'interpeller peu de fois, mais ça va être toujours préparé. Parlons d'un contexte business, ils vont t'envoyer une note en amont, il y aura leurs questions dedans, et ils vont te solliciter deux ou trois fois dans l'année maximum, et ça va toujours être très précis et très organisé. Ces gens-là, tu te dis, ils ont une relation au manque qui est beaucoup plus mature que des gens qui te trouvent sympa, avec lesquels tu as une relation sympathique, et qui, sous prétexte que cette relation se passe bien, vont te surconsommer. C'est-à-dire, vont t'envoyer des SMS, des emails, des sollicitations DM, etc. etc. Moi, je pense qu'il faut préserver sa superbe.
J'applique tout ce que tu dis dans mes relations sociales sans trop le faire exprès parce que j'ai une énergie sociale qui est assez basse. C'est
insupportable, Léo.
Qui est assez basse. Et donc, effectivement, je déteste quand les gens m'envoient plein de messages d'affilée, des messages vocaux et des messages sur plusieurs plateformes.
Non, tu détestes quand on te parle et que c'est pas exactement le moment où tu voulais parler à la personne.
Non, ça, c'est pas vrai. Je déteste le fait qu'on me reproche de ne pas répondre au moment où la personne qui me contacte considère que c'est le moment.
Non, on ne considère pas en 4 jours que tu ne veux pas répondre.
La période peut être longue.
Voilà.
Mais c'est-à-dire
là, on arrive dans la réalité de Léo.
Au bout d'un mois, Voilà. Les gens ont légitimement le droit de se poser la question.
Ça, c'est parce que ils ont considéré que c'était le moment de me parler et j'en avais pas envie, c'est tout.
Ce mois-ci.
Ils ont peut-être surconsommé mon attention. Non, mais j'aime bien garder le contrôle à qui je parle, c'est tout. Et je le fais comprendre en ne répondant pas. C'est tout. Je déteste l'idée qu'on attende forcément de moi une réponse. T'es qui pour attendre de moi une réponse? T'es mon daron? Je crois pas. Je suis pas obligé de te répondre. Si tu me parles en vrai, je serais très content de te voir. On va passer la soirée et tout, je vais boire des coups avec tout le monde, ça je sais faire. Par message, je considère que c'est pas parce que tu m'envoies un message qu'il faut absolument que je le lise et que j'y réponde. C'est pas... Depuis quand on se met cette pression de répondre à tout le monde, en fait? Sinon, on le ferait aussi avec nos abonnés et tout. On répond pas à tous les messages. On n'a jamais ressenti cette pression. Alors pourquoi, avec tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, je devrais leur répondre?
Je suis un abonné de Léo Duff.
Avant toute chose, oui.
tu viens de perdre en statut.
Non, mais en vrai, t'abuses parce que je te réponds.
Il est vrai. Voilà. Ça s'est amélioré.
Voilà, donc...
Manuel, arrête. Le sujet est parti de ta newsletter parce que tu avais loupé une semaine de newsletter.
J'avais fait en sorte de ne pas envoyer de newsletter cette semaine-là.
Quelle a été la réaction, du coup, des gens qui suivent ta newsletter sur la nouvelle newsletter?
Écoute, j'ai eu des réactions, très diverses sur des tons très différents.
Ah ouais?
Mais j'ai reçu énormément...
La newsletter,
J'ai un mec qui me dit sur Twitter, où est la newsletter? Point d'interrogation.
Waouh.
Pas bonjour, que dalle, c'est où est la newsletter?
Tu vois, ça par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles je réponds pas tout le temps aux gens. Bah, tu leur donnes ça, ils prennent ça, Manuel.
J'ai d'ailleurs pas répondu, mais j'ai eu plein d'emails, j'ai eu des gens très sympas qui disent, ah tiens, on n'a pas eu la newsletter, ça me manque, machin, etc. Et moi, j'étais là en me disant, ah parfait, parfait, parce que c'est exactement ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était leur parler du manque, mais la meilleure façon d'en parler... C'est que quelqu'un en souffre. Tu soignes pas quelqu'un qui est pas malade.
Donc finalement, tu le provoques en fait, Manuel.
Là, en l'occurrence, pour la force de la démonstration, c'était intéressant.
Bien sûr, pour la force de la démonstration.
C'était intéressant de le faire vivre. Parce qu'on pouvait mieux en parler après.
Et après, justement, la réaction des gens qui suivent la newsletter, quand tu as republié ta newsletter, ça a été quoi?
Et en fait, d'abord, j'ai eu moins de réactions quand j'ai renvoyé une newsletter la semaine d'après. Les newsletters, c'est toutes les semaines, donc ils ne l'ont pas eu pendant une semaine. J'en parle d'ailleurs dans ma newsletter en disant « Puisque je vous écris maintenant, je vous manque moins. » Et ça s'est vérifié, puisque la semaine où je n'envoie pas de newsletter, je reçois des milliers vraiment d'emails pour dire en gros pourquoi on n'a pas de newsletter sur différents tons. Et la semaine où j'envoie une newsletter, j'ai plutôt des centaines de réactions qui commentent la newsletter ou qui posent des questions ou autre, mais c'est pas du tout le même volume.
Ça, c'est fou parce que les gens te disent « tu me manques, mais pas tu m'as manqué ».
Exactement.
C'est hyper révélateur.
Ah, c'est ouf.
De ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est plus facile d'adresser un reproche plutôt qu'un sentiment.
Oui, puis il y a une sorte de détresse dans le fait de dire « tu me manques ». Alors que « tu m'as manqué », t'es plus en position de force. Dire « ça y est, c'est acquis de nouveau ».
Moi, je pense que cette notion-là, est essentiel pour mieux connaître son rapport au monde qui nous entoure, aux autres, à ce qui nous est indispensable, cesser de convoiter ce qu'on n'a pas et profiter de ce qu'on a.
Je trouve ça idéaliste quand même.
C'est pas vraiment idéaliste, c'est juste être conscient de son environnement.
Je crois que je vais prendre une année sabbatique, partir quelque part au Pérou. Je reviens dans un an et on voit si vous m'avez manqué.
Alors, quelque part au Pérou, c'est quand même...
Et du coup, tu profites pas de ce que t'as?
Bah si, je vais profiter du Pérou.
Ouais, mais tu convoites quelque chose que t'as pas.
Écoute, laisse-moi prendre... J'ai pas envie de bosser, laisse-moi prendre mon année sabbatique.
Moi, ce que je trouve le plus fascinant, c'est le paradoxe qu'il y a chez les gens, puisque, en général, on ne comprend que les choses nous manquent que lorsqu'on n'en dispose plus. C'est complètement con comme raisonnement.
Oui, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, si on se projette pas... Ah ouais, mais non, même ça en fait. Si on se projette sur le manque, ça veut dire que on fait en sorte que les choses nous manquent.
Et qu'on l'aime déjà plus,
en fait. Donc en fait, ça répond même pas à ta question.
Ouais.
Voilà.
Donc à partir du moment où on se projette, on crée déjà un manque. Donc ça n'explique pas pourquoi on attend que les choses nous manquent.
C'est pour ça que tu disais que c'était pas sincère. Et que quand c'est pas sincère, en fait, on n'a pas ce sentiment à ce moment-là qui fait qu'on comprend ce manque.
Et en fait, j'ai un scoop pour vous, c'est que on a tous un côté schizophrène.
Ah, je pensais que tu allais dire on est complètement con.
Oui, mais c'est un peu ce que je veux dire de façon plus polie.
Ok, j'avais une question. Mm-hmm. Est-ce que les choses qui nous manquent sincèrement, ou est-ce que c'est le fait qu'elles nous manquent qui fait qu'elles nous manquent?
Ah, mais ça, c'est très intéressant.
Est-ce que c'est le côté égocentrique qui fait, ok, je n'ai plus ce truc-là?
Donc, par principe.
Qui fait qu'on crée le manque? Ou alors, est-ce que vraiment ça nous manque?
Alors, moi, je poserais la question différemment, mais c'est à peu près la même. Mais ça, ouais, ça va permettre aux gens de se projeter. Est-ce que c'est cette personne qui te manque? Ou est-ce que c'est ce que cette personne t'a porté,
ouais,
qui te manque?
Ouais.
C'est-à-dire, est-ce que tu vois les gens comme un support à des idées, des solutions, de la contribution, des opportunités, du progrès, ou est-ce que tu les aimes sincèrement pour ce qu'ils sont?
Ouais.
Est-ce que ce qu'ils font est plus important que ce qu'ils sont? Et en fait, là est l'enjeu.
Et souvent...
Parce que tu pourras te passer... Attends, j'arrive dans une seconde. Tu pourras te passer de ce qu'ils font et trouver un substitut,
ouais,
mais tu ne pourras pas trouver de substitut à ce qu'ils sont, qui est beaucoup plus unique.
Et ce que j'observe généralement, c'est que dans les relations humaines, c'est souvent des relations qui nous rassurent. Donc à un moment, on ne se pose plus vraiment la question de si la personne on l'apprécie pour ce qu'elle est, etc. C'est juste qu'on apprécie être avec une personne qui nous rassure. Et vu qu'on a un caractère qui a besoin souvent d'être assuré, conforté...
Ou bah qui c'est... nous inspire.
Exactement. Ou... Bah en fait, parfois, c'est plus ça qui vient à te manquer quand tu arrêtes une relation que cette personne, finalement, qui te manque. C'est pour ça que je choquais parfois beaucoup de gens quand je pouvais comparer une activité business avec une relation.
Personne n'est choqué par ça. Hein,
voilà.
Bon, parce que connaît, hein.
Je partais du principe que...
Il y a des gens sur Twitter qui disent qu'ils t'aiment autant qu'ils te détestent.
Tu pourrais être avec n'importe qui sur Terre, du moment où il t'apporte ce que tu cherches, finalement la personne compte moins que ce qu'elle peut t'apporter. Alors qu'une activité que tu as montée tout seul, qui est dans un secteur que tu as construit, etc., bah, elle est difficilement remplaçable. C'est pour ça que souvent je choquais les gens qui me disaient « Oui, mais tu travailles beaucoup, t'as pas de relation, machin, etc. » Mais je partais du principe que pour moi, mon travail comptait plus parce qu'il était plus rare à trouver et à reproduire qu'une relation que je pouvais avoir, ou du moment où je trouve les qualités dans une autre personne, ben ça pouvait finalement me combler.
Moi, souvent, je vais faire un exercice aux gens qui est assez pervers.
On veut pas, non, Manuel, t'étales pas là-dessus.
Sur l'histoire du manque. J'aime bien faire réfléchir les gens sur leur relation idéale. En leur disant, bon, voilà, c'est ton mec ou ta meuf idéale, c'est quoi, en fait? Puis là, souvent, t'as une description
incroyable,
assez précise, ouais, etc.
Ah ouais, les gens savent?
Il y en a pas mal. Enfin, après, t'as les pudiques, t'as les poètes, t'as tout ça là qui te disent, ah non, mais c'est pas ça qui compte.
Ou souvent, ils partagent leur fantasme. Ouais.
Mais, alors ça, c'est vraiment un cercle de personnes assez restreint qui fréquentent des lieux sur,
non
club, sur club de membres. Ça,
mais t'as toujours ça, le pote qui te dit « Ah, elle, c'est la meuf de mes rêves, machin. » Et en fait, ça ressemble pas du tout avec la personne avec qui il est.
Bref, revenons à notre sujet. Donc, tu fais projeter ça. Et ensuite, tu laisses les gens évoluer et tu les vois rencontrer d'autres personnes. Et tu vas observer ce qu'il va se passer quand ils s'entendent très bien avec quelqu'un qui ne présente pas les...
Du tout les critères.
Du tout les critères et les atours qui t'ont mentionné. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans une situation de manque.
Ouais.
Il leur manque les gros seins,
ah oui,
les
même.
Cheveux longs, les machins, les trucs, enfin tous les critères à la con.
C'était précis, la description.
Bah, c'est ce qu'on entend en général. Et là, tu te rends compte qu'ils s'en accommodent parfaitement. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, ce qu'est cette personne, ce qu'elle est réellement, comble ce qui leur manque. Et ça, dans ces situations-là, ils arrivent à le comprendre. Et dans plein d'autres situations, ils n'arrivent pas à le comprendre. L'idéal ne se présente pas toujours sous la forme où on l'a imaginé.
Est-ce que c'est même pas souvent l'inverse ?
C'est-à-dire ?
Bah, souvent, j'ai l'impression qu'on a des critères qui n'en sont pas réellement et on ne s'intéresse jamais vraiment aux personnes qui représentent ces critères-là. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un pote ou une pote me dit « Ah oui, moi j'ai besoin de quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça », c'est toujours pas du tout cette personne-là avec qui elle finit.
Bah, parce que personne s'avoue que le physique compte en premier. Et ça fait chier beaucoup de gens.
Ah d'assumer... non, pas forcément. Même, ah ouais même sur du physique. Moi, j'ai juste l'impression
je suis pas du tout d'accord avec ça.
Ah bon ?
Moi, j'ai juste l'impression que tu ne peux pas mettre une définition, mettre des critères sur la personne qui va partager ta vie, la personne avec laquelle tu vas t'entendre. Parce que si j'avais dû dire il y a 5 ans parmi mes meilleurs potes, il y aura Romain, Emmanuel, jamais de la vie j'aurais dit ça.
Bah non, t'aurais décrit comme moi.
Mais non, mais j'aurais jamais décrit vos personnalités en fait. J'aurais certainement dit un mec comme moi, un mec un peu créa, très loin du business, etc. Mais vous, ça ne serait jamais venu à l'esprit. Mais le hasard de la vie fait que tu te retrouves avec des gens qui sont complètement à l'opposé de qui tu es et qui tu penses apprécier.
Mais ça, c'est le signe d'une certaine maturité. Et je pense que si on veut se rendre service, il ne faut pas trop projeter d'idéal. C'est exactement comme les gens, tu vois, qui modélisent une soirée, un anniversaire, un voyage, des vacances ou je ne sais quoi. Ben en fait, à force de les imaginer, ils ne peuvent être que déçus.
Ouais.
Mmh. Parce que ça ne sera jamais exactement comme ils l'ont imaginé. Et au lieu d'accueillir l'imprévu comme une opportunité, ils l'accueillent comme une déception.
Ouais.
Ah, je déteste l'imprévu.
Ben là, en fait, l'imprévu doit faire partie du plan.
Ben je déteste ça.
C'est pour ça que tu échoues.
Oui.
En combien de mots ?
Souvent, c'est vrai. Tu échoues. Pas mal.
Non, mais voilà, c'est comme ça. En fait, à un moment...
Tu dis ça, mais t'es le premier à détester l'imprévu en vacances. Quand on part en vacances, on veut que tout soit timé, propre, comme on l'a imaginé sur les photos et autres. On n'a pas envie de se préoccuper des merdes qui peuvent se passer au milieu.
Non, moi, je veux que tout ce qui est potentiellement prévisible le soit.
Uh-huh.
Parce que je sais qu'il y aura des critères qui ne sont pas prévisibles et dont il faudra s'accommoder. Donc, autant mettre tous les autres sous contrôle, si tu le peux.
Oui, ça ne veut pas dire que tu dois vivre ta vie en tirage au sort.
Voilà. Mais il y aura toujours quelque chose que tu n'avais pas prévu et qui va exister. Et le fait de vivre dans une espèce de projection de l'idéal pose un problème. Parce que c'est une usine à fabriquer de la déception.
Ouais. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, il y a un moment, je ne sais pas si on a tous eu la même chose, mais bon, je vais le raconter. Il y a un moment où tu te dis, mais moi je préfère les brunes, les blondes ou les rousses. C'est complètement con. Et je me suis vraiment dit plus petit, moi je suis plutôt sur les brunes, je pense.
Ah, tu t'es dit ça, toi.
Mais c'est vraiment un critère capillaire.
Oui.
Ça n'a aucun sens de faire ce genre de truc.
Moi je suis pas du tout d'accord là-dessus. Hein.
Alors que tu ne sors qu'avec des chauves.
Est-ce que c'est bien ou pas alors de ressentir le manque ? Est-ce que c'est jamais agréable pourtant ? Quand quelque chose te manque, on déteste ça puisqu'on a envie de l'avoir. Mais est-ce qu'à la fin, c'est bien ?
Mais je pense que le sujet, il est là. Le sujet, il est sur est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est pas agréable ? Moi, je pense qu'on ne s'élève pas le cul dans le beurre. Ça marche pas comme ça. Et à force de mettre les gens dans des situations favorables, agréables, de confort, où on réunit tous les critères pour que tout se passe bien, que la réussite soit là... on met les petits plats dans les grands pour toutes les occasions, etc., etc. On n'éduque pas les gens à l'adversité. On n'apprend plus aux gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. On n'apprend pas la force de l'effort, de l'abnégation, de la régularité, de la constance. Autant de mots qui sont aujourd'hui des mots dits ringard. Dès que tu dis ça, tu dis « Ah, mais t'es ringard, c'est plus comme ça maintenant, etc. etc. » En fait, il faut que tout soit un film Marvel. Et ça m'exaspère. En fait, l'enjeu, c'est d'accepter que tout n'est pas idéal, que tout ne va pas se passer comme prévu, que oui, il va falloir fournir des efforts, que oui, nous sommes des êtres doués de compétences et de faiblesses, et qu'il va falloir composer avec les deux. Et c'est finalement ça, l'enjeu. Derrière le manque, il y a nos peurs, il y a nos faiblesses. Derrière nos projections idéales, il y a aussi la peur de vivre telle ou telle situation ou d'être face à tel ou tel dilemme. Et si on veut élever des êtres forts, il faut leur donner suffisamment de base pour qu'ils puissent faire face à l'adversité. pas qu'ils ne sachent réagir que dans des environnements parfaitement préparés pour eux et parfaitement favorables à leur épanouissement. Donc, mettons les gens dans la difficulté, faisons-leur reconnaître leur propre dépendance, leur propre faille, leur propre peur, et à partir de là, pour avoir des guerriers.
À bientôt.
La bise.
Depuis que tu es parti, y'a que ma PlayStation qui me console. Qu'on s'aime ou qu'on saigne, pour moi c'est la même merde. C'est la dernière, oui, la dernière fois que je parle de toi en concert. Et tu me dis qu'il faut pas que j'arrête, qu'avec le temps ça peut le faire. Même si je me torche avec, merci pour tes conseils. Depuis peu je rêve d'une autre vie, Steven rêve d'une autre vie. Te détester me motive, je peux t'insulter sans motif. C'est vrai que je suis fautif. Ouais, je t'ai cru comme un con. Tu m'as quitté et puis tu m'as dit, chérie, je t'aime, mais bon, c'est plus comme avant. Je dois t'oublier si je veux guérir de mes blessures, je crois. T'étais ma drogue, j'ai tiré un trait sur toi. Je dois t'avouer que t'es l'une des filles que j'estime le plus. Mais c'est triste, je te fixe. Je te le dis, chérie, t'existes plus.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.